Rectangle, le podcast.
Ça ne
tourne
plus
rond. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Rectangle dans Ça ne tourne plus rond, le podcast de la rédaction. Benjamin Skos aux manettes et deux invités, c'est une spéciale Liège aujourd'hui. Nous sommes de retour à Anse au SOS Recording, studio d'enregistrement super high-tech sur lequel je me fais un malin plaisir d'enregistrer sur un dictaphone vieille génération. Et j'ai à mes côtés deux invités liégeois, je pense, en tout cas qui vivent à Liège et qui participent activement à la vie culturelle de la ville. Nous avons Caroline à nos côtés.
Bonjour.
C'est aussi une émission particulière parce que vous faites un peu plein de choses, hein, vous, tous les deux. Donc, il y a aussi Jeff.
Salut, bonjour.
Tu remarqueras que je ne prononce pas les noms de famille, c'est parce que j'ai tendance un peu à... Non, pas oublier, mais à donner des noms de famille, tu vas mal prononcer, donc je vais vous laisser prononcer vous-même vos noms.
Alors, Jeff Bertemes.
Ah oui, moi j'aurais dit, tu vois, Birdmas.
Jamais de la vie.
Et Caroline ?
Le vrai nom, c'est Caroline de Haran, mais sinon je travaille sous Caroline Poisson.
Alors toi, tu es une vidéaste, une musicienne, je sais pas, tu fais plein de trucs en tout cas. On te voit souvent sur différents projets, en tout cas impliqué dans pas mal de projets culturels. Quel est ton projet quand même ? Enfin, je sais que c'est plutôt l'audiovisuel, je pense quand même.
Oui, moi je suis vidéaste et à plein temps depuis 2 mois, donc ça y est, je suis indépendante en vidéo. Et je fais aussi pas mal de musique sur le côté... J'ai fait beaucoup, puis j'ai arrêté, puis j'en refais, voilà.
Indépendante en vidéo, ça c'est beau ça.
Ouais, c'est beau.
C'est-à-dire qu'on peut te contacter, par exemple, je te téléphone, je peux dire j'ai un mariage, par exemple, est-ce que tu peux faire mon... Tu fais des choses comme ça ou c'est de tout ou c'est vraiment ciblé quand même artistique ou culturel?
Alors c'est plus ciblé artistique et culturel. Mon but est de ne vivre que des vidéos musicales, ce qui est un grand rêve. Maintenant, il y a 2 ans, je me disais que j'aimerais avoir un client régulier en vidéo. Je pensais que c'était impossible en vidéo. Et là, j'en ai un. Je travaille pour Flair d'Hebdo. Ça révèle mon côté girly. Mais je me donne un an pour ne faire que de la vidéo musicale, donc live, clip, concert. Je fais quelques mariages maintenant, vu ma tête, les mariages trop classiques, les belles-mères ne vont pas trop m'aimer, donc voilà.
Des mariages de hipster alors, c'est ça?
Exactement, j'assume totalement.
Quoi, tu es un peu un hipster ou... Enfin, une hipster?
Il paraît que, ouais. Maintenant, les mots qu'on me donne, j'ai eu kawaii aussi de temps en temps, mais ouais.
Kawaii. On parlera aussi de ton projet pour enfants, Bandit, qui sort chez L'œil Kids Records. L'œil Records Kids ou L'œil Kids
L'œil Kids.
On en parlera. Et alors Jeff, toi, qu'est-ce que tu fais aussi? On ne sait plus très bien. Hein. Tu es dans différents projets, tu chantes, tu écris pour Radio Rectangle maintenant. Tu te considères comment en fait comme artiste?
Alors moi je me considère depuis toujours comme un amoureux de la francophonie et un porte-parole de la francophonie. Donc je suis à la fois auteur-interprète d'un projet musical et effectivement également chroniqueur pour Radio Rectangle. Et je travaille aussi pour une agence de booking qui se centre forcément sur la chanson française.
On t'a connu aussi sur des projets visuels aussi, hein, c'est un peu un lien entre vous deux, c'est que tu, je sais pas si tu réalises des clips, mais en tout cas tu crées des images aussi.
Je crée des images aussi, mais surtout j'ai eu tout un passé de travailleur dans l'art contemporain, ça c'est vraiment une petite passion à moi.
Faire naître... Ton petit péché mignon.
Ouais, on va dire ça comme ça, mais ça c'est vraiment très personnel, donc c'est de l'organisation d'événements, mais ça je fais vraiment ça sur le côté, et venir en aide aux artistes contemporains, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi.
Toi aussi Caroline, tu es un peu baignée de... d'images un peu, on va dire, d'art contemporain ou de pop culture.
Oui, mais c'est vrai que par mes études, donc j'étais à l'ERG à Bruxelles, j'ai un peu baigné dans tout le truc art contemporain, un peu ouais, belge. Et puis par la vidéo, je fais aussi pas mal de portraits d'artistes, autant contemporains que je travaille avec une artiste peintre aussi d'une 50aine d'années. C'est hyper agréable de découvrir d'autres univers, pas uniquement les hipsters liégeois. Donc c'est gai de pouvoir un peu... faire le tour, quoi.
La musique et l'image, alors coup de cœur, premier coup de cœur de toi Jeff.
Mais là mon premier coup de cœur, les deux sont liés à vrai dire.
Tu as noté sur des feuilles, hein, je vois, tu as fait ça consciencieusement.
Alors je note toujours tout, je suis un amoureux de l'écriture et de la langue. Donc les deux sont liés, moi je voulais parler aujourd'hui des femmes en chanson, et particulièrement au Québec, avec une artiste que j'aime vraiment beaucoup. C'est une très très grande artiste québécoise qui s'appelle Ariane Moffat, qui est connue de certains, totalement inconnue d'autres. Et elle a sorti un mini CD, un mini album live qui s'appelle Le Petit Spectacle à la Chapelle. Alors ceux qui ne connaissent pas l'artiste, c'est une très belle porte d'entrée dans son univers, même si le mot est très éculé, mais c'est une très belle porte d'entrée. Et si vous la connaissez déjà, mais là vous allez redécouvrir les titres. Et vraiment je conseille cet album là, il est vraiment très intime, très précieux. Là le titre que j'ai choisi s'appelle Debout, vous le connaissez peut-être de son album 22h22 qui était très très électronique, et là il est dépouillé de tout ça pour ne garder que l'acoustique, et cet album est juste splendide.
On va écouter, mais souvent quand on pense Québec, on pense les gens pensent que c'est une musique de bûcheron avec des du fond du bois, enfin tu vois, du avec ce côté fermier, folk, tu vois, non, c'est un peu cliché, ou alors carrément Garou, Céline Dion, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ? Est-ce que c'est ça ou...
Mais c'est pas du tout ça. Enfin, si, bien sûr, Céline Dion, Garou en font partie, la musique de Bûcheron aussi, mais c'est totalement fou quand j'entends quelqu'un parler de la chanson française ou de la chanson québécoise et dire que, effectivement, c'est ça. Je me dis tout le temps, mais c'est comme si quelqu'un se plaçait en tant que connaisseur de séries et ignorait toutes les séries américaines. C'est totalement impossible. La chanson québécoise est très forte, très vivante. Malheureusement, elle est très très peu connue ici. Mais je pense que le vivier se situe vraiment au Québec en termes de chansons françaises.
Ariane Moffat, on l'écoute tout de suite. Vous êtes sur Radio Rectangle, Santon Pluron, Benjamin Scoz et ses deux invités, Jeff et Caroline. Et toi, donc, tu as choisi un truc en anglais, un truc branché, alors.
Alors, j'ai choisi quelque chose en anglais, mais c'est un groupe belge. Donc, je suis un petit peu pardonnée. C'est le groupe Passmans, qu'en fait, je ne connaissais pas. Et j'ai un amoureux musicien qui travaille avec Rudy Trouvé, qui nous a offert sa petite compile de tous les projets qu'il avait fait dernièrement sur Even Hotel avec Jesus Factory.
Une grosse compile, alors, plutôt qu'une petite, parce que Rudy Trouvé est assez... comment dire, il a beaucoup de musique en archive, lui.
J'aime bien dire le mot petit, je trouve ça mignon. Mais c'est vrai que c'est une grosse compile. Et donc, c'est le groupe Passmans que j'ai découvert sur compile, grosse compile. Le groupe, la chanson, c'est Sunflowers. J'ai oublié, il faut que je prenne ma...
Tu aimes bien les trucs américains, mais tu ne sais pas les prononcer, quoi.
C'est juste que j'ai oublié le titre. Sunflowers for the Girl. C'est en fait un morceau qui est... C'est tout un album qu'ils ont conçu pour une pièce de théâtre que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Et ce morceau est juste magique.
Alors, sur la grosse compile de Rudy Trouvé, on écoute... ce titre post-hippie, peut-être avec un titre pareil, je sais pas, c'est un peu hippie, non, pas du tout.
Non, pas du tout. c'est un peu jazzy, en fait, ça a été produit par le mec de Zita Soon. Donc...
Bon, ça va, on va l'écouter. Ça me rappelle Rudy Trouvé dans ses expérimentations avec Kiss My Jazz, par exemple, ouais. qui était un groupe à géométrie variable qui ressemblait pas à grand-chose, enfin, ça changeait chaque fois, c'était un peu... Tu aimes bien, toi, les projets un peu cirque, comme ça, enfin, cirque, un peu freaks, où tu sais pas bien ce que tu vas aller voir sur scène, tu vois, tu vas voir un truc et puis c'est autre chose. C'est un peu la spécialité de Kiss My Jazz ou de gens comme Frank Zappa, etc.
Je pense que tu connais suffisamment pour... Bien sûr, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Être surpris, pour moi, c'est la condition sine qua non avant de rentrer dans une salle et j'ai besoin de ça. Et quand tu me parles de ça, je pense à un groupe parisien que j'aime beaucoup qui s'appelle le Cirque des Mirages et un groupe très méconnu aussi, mais qui fait vraiment ce petit bonhomme de chemin et qui fait de très belles choses.
Thank you. C'était Rudy Trouvé et ce formidable titre, merci pour la découverte, sur sa grosse compilation Bassman. Passmans. Petit jeu dans l'émission qui s'appelle Notez-les. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit jeu. Donc il suffit de donner une note à un élément de pop culture sur 10. Alors c'est un jeu qui n'engage que vous. Dans le moment où vous le dites, c'est-à-dire qu'après les podcasts, vous pouvez très bien changer d'avis, il n'y a pas de souci, nos auditeurs sont habitués au retournement de veste. On va commencer avec cette personne à noter sur 10, Henri Dez. Alors, je n'ai pas choisi de manière anodine Henri Dez, puisque tu sors un album sous le nom de Bandit, en trio, de chansons pour enfants. Alors, Henri Dez, combien sur 10?
Allez, 8 quand même.
Tu as été bercé par le son de Henri Dez?
Non, même pas, malheureusement, j'ai été bercé par bien pire que ça, mais j'aime bien maintenant. Je sais pas, je trouve ça joyeux.
Henri Dez, tu as écouté, toi?
Alors oui, bien sûr, j'écoutais ainsi que Christian Merveille, Dorothée et compagnie, parce que je les mets un peu dans le même sac, mais c'est vraiment horrible comme jeu, parce que je refuse déjà la notification des enfants dans l'enseignement. Alors là, côté quelqu'un et un artiste sur 10, je vais plutôt passer du vert ou du rouge.
Mais tu peux donner 6,4. Hein.
Je ne dis pas de cette espèce-là. Je dirais simplement que j'approuve.
Oui, mais le jeu est long, hein, tu sais, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que Benny il a eu plus de voix qu'Elvis Presley par exemple, pour le moment, parce que je fais un décompte si tu veux au total de... Et donc il y a comme ça des éléments qui sortent plus que d'autres, donc c'est ça la magie de ce jeu en fait.
Alors je vais être extrême et je vais voter pour 10 ou 0, ça sera 10.
10 pour Henri Dez, et 8, hein, c'est ça que tu disais. Super score, hein, il va rejoindre... Il sera au-dessus de Michael Jackson et d'Elvis Presley, quoi, c'est pas mal. Ken le survivant.
À zéro, vraiment zéro, c'est un traumatisme de mon enfance très très profond. On parlait justement de Dorothée tout à l'heure, et ça a vraiment été un grand traumatisme de voir ces images de mains qui rentrent dans les crânes et qui explosent. J'ai détesté ce dessin animé, profondément.
Et encore, il était censuré, je pense, quand il passait au Club Dorothée, il y avait des parties qui étaient enlevées. Et d'ailleurs, bah, c'était un peu une sorte de Mad Max version, pour ceux qui ne connaissent pas, en version bodybuildée et plus gore. Ça, tu regardais, toi, ça?
Alors, Ken le survivant, je connais le personnage, mais je n'ai jamais regardé, jamais vu. Je pense que ça ne passait pas au Club Dorothée.
Si, si.
Mais moi, ce qui m'a traumatisé à l'époque, moi, c'était les Chevaliers du Zodiac.
Ça, j'adorais.
Ça m'a traumatisé quand j'étais petite. Mais c'était mon truc le plus gore de l'époque.
Donc, pour les Chevaliers du Zodiac, tu mets combien?
À 11.
11 sur 10 pour les Chevaliers du Zodiac. Moi, j'avais les figurines qu'il fallait, Bandai, tu vois. Et mon chat les a mangés et puis je les ai jetés, quoi. Donc tu connais pas quel est le survivant? Donc on va coter quand même le chevalier du Zodiac alors. Hein.
10, bien entendu.
Ça t'aimait bien, quelle est la différence?
Ah, mais toute l'imagerie est merveilleuse dans les chevaliers du Zodiac. Et surtout, il y avait le chevalier du dragon. Rien que pour ça, ça se suffit.
C'est la poésie, c'est ça, c'est la poésie qui sort du...
Je me souviens d'un épisode où un des personnages se faisait arracher un œil. Alors je ne sais pas si ils n'ont pas oublié de le censurer ou quoi, mais moi j'ai vu ça quand j'étais petite. Un personnage de Chevalier du Zodiac se faisait arracher un œil.
Et c'est cette matière-là qui t'a inspiré donc l'album de Bandit?
Oui, à mon avis, oui, c'est le côté gore. C'est, ouais, c'est le côté gore.
Comment est-ce que c'est né ce projet? Parce que je suis un peu, tu vois, comment est-ce que vous êtes dû à faire ça? Parce que les enfants, c'est quand même casse-pieds, non? C'est un peu...
Ah, moi j'adore les enfants. Ça... D'ailleurs, Mirko, si tu nous écoutes.
Ah, la grosse pique!
Moi, les enfants, c'est zéro plutôt.
Ah, voilà. Oui. Non, moi je suis assez fan. Depuis récemment, hein, quand tu passes 30 ans, d'un coup, c'est dans tes gènes, tu aimes les enfants. Je pensais pas, mais bien. En fait, c'est Christophe Anclin de Mauvais qui m'avait déjà contacté pour faire les chœurs dans son projet Mauvais. Je me suis très très bien amusée avec lui, on s'est très très bien entendu. Et il nous a recontactés, Mirko et moi, pour dire, voilà, ça vous dirait pas de faire un projet pour enfants avec des textes un peu plus élaborés, parce qu'il écrit vraiment très bien, que Mirko puisse composer de chouettes musiques, pas gnangnan, donc des musiques folk très sympas. Et moi, pour chanter avec ma petite voix de chipmunk, comme je disais à Jeff tout à l'heure, et pour un peu faire rire les enfants, me déguiser, faire des petits bricolages, des trucs à monter sur scène. On s'est directement dit, mais oui, on s'ennuie, on n'a pas du tout assez de projets, on va encore en prendre un, et on s'éclate.
C'était aussi parce que tu t'es dit, je vais pouvoir faire des vidéos, des animations pour le truc, non?
Bah, même pas, parce que je n'ai pas envie de prendre le pas visuel, enfin, je n'ai pas envie de faire tout le visuel, parce que Christophe fait des super zilus. Et d'ailleurs, toute l'imagerie qu'on a pu voir pour l'instant de Bandit, c'est Christophe qui a fait des illus, c'est pas du tout moi. Moi, je fais plutôt ce qui est visuel pour la scène. Donc, des éléments en carton, des personnages, des choses comme ça. Et lui, j'aime beaucoup ce qu'il a fait pour l'instant comme visuel. Donc, j'ai vraiment envie que pour l'album, limite, ce soit même lui qui fasse. Maintenant, clip, c'est clair qu'on aimerait bien le faire ensemble, mais vraiment le faire ensemble. Quoi. J'ai pas envie de le faire toute seule.
C'est vraiment une collaboration ici, sur toute la ligne. Et toi, qu'est-ce que tu fous avec ton projet là? Parce qu'on n'en entend plus parler. Il y a comme un trou là. La cécité des amoureux, hein?
Je suis aussi un amoureux du secret, donc je ne répondrai pas à cette question.
Quoi, tu es toujours en phase industrielle du projet?
Je ne répondrai pas à cette question.
Et un projet pour enfants, moi je te vois bien faire ça.
Absolument pas, non, absolument pas. Mais mes thématiques restent toujours les mêmes, c'est l'amour et parfois la sexualité, donc je pense que ça ne peut pas vraiment être lié à l'enfance, ou alors ça fait un très très mauvais mélange.
Bah, si on écoutait justement à ce sujet la chanson de Léo Ferré, Petite, je sais pas si tu connais. Chanson qui a trait à ce sujet d'ailleurs un peu brûlant, chanson qu'on n'entendrait plus chanter à l'heure actuelle. Hein.
Comme beaucoup d'autres chansons, c'est très étrange ce phénomène qui fait que les artistes francophones n'osent plus dire des choses et je pense qu'on y reviendra, et en tout cas je le souhaite.
On écoute Léo Ferré, on continue notre petit jeu après.
Tu as des yeux d'enfant malade, et moi j'ai des yeux de marlot. Quand tu es sorti de l'école, tu m'as lancé tes petits yeux doux, et regardé pas n'importe où, et regardé pas n'importe où. Ah, petite. Ah, petite, je t'apprendrai le verbe aimer qui se décline doucement, loin des jaloux et des tourments, comme le jour qui va baissant, comme le jour qui va descendre. Tu as le corps d'un enfant cygne, et moi j'ai des mains de velours. Et quand tu marchais dans la cour, tu t'apprenais à me faire signe, comme si tu avais eu 20 ans, comme si tu avais eu 20 ans. Petite, ah, petite, je t'apprendrai à t'en mourir, à t'en aller tout doucement, loin des jaloux et des tourments, comme le jour qui va mourant. Comme le jour qui va mourir. Tu as le buste des outrages, et moi je me prends à rêver. Pour ne pas fendre ton corsage qui ne recouvre qu'une idée, une idée qui va son chemin, une idée qui va son chemin. Petite. Ah, petite. Tu peux reprendre ton cerceau et t'en aller tout doucement, loin de moi et de mes tourments. Tu reviendras me voir bientôt. Tu reviendras me voir bientôt. Le jour où ça ne m'ira plus, quand sous ta robe il n'y aura plus le code pénal.
Benjamin Scos sur Radio Rectangle, ça ne tourne plus rond, le podcast de la rédaction. On est en train de noter des gens, on divague un peu vers d'autres choses. Alors, Benny Hill, justement, on continue dans la grande pop culture.
Un zéro absolu. Totalement, je déteste ça. J'ai beaucoup de mal avec l'humour en général, mais alors Benny Hill, c'est quelque chose qui... Encore une fois, c'est très attaché à l'enfance, mais je vois cette télévision au fond du salon avec ces choses totalement insupportables, alors que moi, je ne rêve que de Marie Laforêt et Barbara, enfant peut-être un peu insupportable aussi, mais non, Benny Hill, c'est zéro, vraiment.
Tu as un problème avec l'enfance, toi, non ? On reconnaît ça dans tes chansons.
Alors, celui ou celle qui n'en a pas eu un, chapeau, mais effectivement, je pense que tout le monde a ça au fond de lui, tout le monde a eu des petits traumatismes dans l'enfance, mais ça fait le terreau de l'artiste, oui.
Dont Benny Hill, d'ailleurs. Et toi, Benny Hill, tu connais ? Tu vois qui c'est ?
Oui, quand même, je ne suis pas si jeune, Benjamin, mais à les 7, je suis pas très humour non plus, humoriste, tout ça, mais là, ça va.
Ah bon, Bigard, par exemple ?
Ah non, je déteste l'humour. Non, moi, c'est Mr Bean. Lui, c'est le 20 sur 10 absolu.
Alors, c'est connu parce que Mr Bean, tu dis ça en anglais, tu vois, alors qu'ici, tout le monde trouve ça à chier, là-bas. C'est comme Benny Hill, ils trouvent ça tous nuls, alors que nous, on connaît, enfin, Mr Bean et Benny Hill, c'est un peu...
De Mr Bean. J'adore ce personnage. Il y a même un dessin animé, Mr Bean, qui est génial.
Rien comme humour, tu ne rigoles jamais alors ?
Ah, je rigole rarement, mais je dirais que j'aime Marie-Thérèse Porchet.
C'est toujours des trucs inconnus, hein, c'est...
Non, elle, c'est un humoriste ou une humoriste à voir suisse, et je vous conseille la leçon de géographie, c'est vraiment très très drôle.
Les frères Taloche, par exemple.
On est toujours dans le zéro. Non, l'humour n'est peut-être pas un art qui me touche particulièrement, si ce n'est Marie-Thérèse Porchet.
Et même un petit moment, une petite comédie, un petit film comique.
À la limite, une comédie dramatique.
On n'arrivera pas à le faire rire, en tout cas. Toi, t'aimes bien tout, toi, non ?
Non, mais c'est quoi ces préjugés ? Non, pas du tout. Je n'aime pas trop les comédies. J'ai été plutôt bercée quand j'étais petite par des trucs genre La Cage aux Folles ou quoi, ça, c'était un peu les Fernandelles, les Louis de Funès, ça, c'est un peu les seuls films comiques que j'aime parce que ça a bercé mon enfance. Sinon, récemment, les comédies, c'est pas trop mon truc.
La Cage aux Folles, c'est une pièce de théâtre, je pense, un peu comme Le Père Noël est une ordure. Donc tu aimes le théâtre filmé au cinéma ?
J'aime pas du tout Le Père Noël est une ordure, c'est bizarre, mais par contre, La Cage aux Folles, j'ai pas vu la pièce de théâtre, j'ai vu uniquement le film adapté quand j'étais petite et j'adorais ce truc.
Alors, deuxième coup de cœur. Ça vous dit qu'on repart dire quelque chose d'un peu plus sérieux ? Deuxième coup de cœur, qu'est-ce que tu as ? Je vois que tu trépignes d'impatience à nous montrer quelque chose.
Ouais, je trépigne vraiment, là je suis vraiment très heureux de la présenter. C'est une artiste que je suis depuis très longtemps, qui s'appelle Laurence Nerbonne. Je parlais de Québec tout à l'heure, elle est québécoise. C'est une artiste qui a gagné le Juno de l'album francophone de l'année, donc l'équivalent des Victoires de la musique là-bas. Et pourtant, aucune scène francophone ne l'a programmée cet été chez nous, donc à bon entendeur. Je tenais à parler d'elle parce qu'elle a une carrière très étonnante. Elle a d'abord commencé dans un groupe indé qui s'appelait Hôtel Morphée. Ils ont sorti un album qui est merveilleux, vraiment. Et puis là, elle s'est lancée dans la pop à l'américaine, mais en version française. Ça donne un résultat qui est très street, qui exprime quand même une vision assez large et novatrice de la chanson française et qui montre jusqu'où on peut aller dans cette fierté francophone. Et j'ai pris un petit bout de texte d'une interview qu'elle a faite pour ici Radio-Canada, que je trouve très révélateur de qui elle est. Et je voulais juste le lire si c'est possible.
Prends une voix alors à la Barry White peut-être.
Je vais essayer.
Prends une voix de narrateur, tu vois, comme dans les trucs de lecture. Là.
Je vais prendre ma plus belle voix féministe.
Voilà. Ta plus belle voix.
Voilà. Alors je pense que c'est important qu'on prenne notre place en tant que femme, pas juste comme chanteuse ou interprète, mais aussi comme leader qui font de la production, qui sont capables d'être musiciennes et de mener des chansons à terme. Et alors j'ai envie de dire à cette chère Laurence Nerbonne, merci pour ces mots-là, j'espère qu'ils vont être entendus et j'espère que la Belgique va t'ouvrir ses bras très bientôt.
Super, on va écouter ça, mais tu as l'air fort dans l'application de la défense des femmes, je ne vois pas très bien pourquoi alors que tu es normalement de l'autre côté, non ?
Je suis totalement des deux côtés, je me sens absolument...
Il n'y a pas de rapport de force.
Ah, je ne me sens pas du tout genré, le côté homme-femme, je ne le ressens absolument pas, il y a des choses que j'aime dans la féminité et que j'assume totalement chez moi, d'autres que j'exècre chez l'homme, mais alors le côté genré qu'on nous impose, je ne le ressens absolument pas. Et oui, je suis dans la défense des femmes, et oui, c'est logique.
Je reviens chez moi. Oui, je sais, j'ai pas trop changé. Il y a l'odeur de la pluie sur les rues qui m'attend. Je reviens, la vie n'a pas changé. Je reviens chez moi. Je reviens, cette fois fais monter. Y a l'effet de tes yeux sur mon cœur qui m'attend. Retiens-moi,
cette fois je vais rester.
Sur Radio Rectangle, on parlait de la cause de la femme. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de filles dans l'industrie musicale ? Par exemple, je fais partie d'un panel de labels indépendants avec Freaksville et il y a une fille pour 10 gars. Comment est-ce que tu expliques ça ?
Moi, personnellement, en tant que femme, je peux le dire maintenant, allez. C'est vrai que le milieu musical, mais le milieu artistique en général, est très difficile pour les femmes. J'ai très souvent eu le... Quand je ne réussis pas... Si je ne réussis pas quelque chose, c'est parce que je suis une fille. Si je réussis quelque chose, c'est aussi parce que je suis une fille. Donc, c'est toujours l'image qu'on te renvoie. Et même engagée par une fille, on m'a dit que c'est parce que j'avais couché, que j'avais réussi à avoir certains contrats. Donc c'est vrai que l'industrie musicale, le monde artistique est assez difficile à approcher en tant que femme.
Pourtant, il y a beaucoup quand même de filles qui sont, ou de femmes qui sont attachées de presse, chargées de communication. Toi, pour le côté gestion ?
C'est le côté secrétaire. Souvent, on ne donne pas autant de place aux femmes dans beaucoup de milieux artistiques, ce qui est dommage. Ou alors, on les prend pour des lesbiennes acariâtres.
Ça, j'aime bien, ça, lesbienne.
Non, mais c'est vrai que... Pour pouvoir s'affirmer dans ce genre de milieu, il faut avoir un foutu caractère et un peu taper des poings sur la table. C'est vrai qu'avec mon look de fille de 20 ans et ma petite voix et mon côté un peu houhou, j'ai parfois un peu dû grincer des dents et un peu taper des poings sur la table et limite de ne pas devenir moi-même pour pouvoir accéder à certaines choses, ce qui est un peu dommage.
Si tu réussis, c'est parce que tu es la femme de Mirko, c'est ça ?
On me l'a déjà dit aussi. On m'a déjà dit aussi que j'avais de la chance de sortir avec lui, que ça m'ouvrait des portes artistiques. Ouais, ouais.
Les gens parfois racontent n'importe quoi.
Mais oui, mais moi j'ai l'impression de voir justement plein de femmes fortes partout. Et plein de femmes...
Ça, c'est parce qu'elle mange beaucoup.
Je ne sais pas, mais... Non,
tu pourrais rigoler au moins. Non, pardon, tu n'es pas humour.
Mais absolument pas. Mais moi, je vois énormément de femmes depuis des années qui sont fantastiques. Je vois des Brigitte Fontaine.
Elle est vieille quand même, hein. Elle est sénile.
Non, absolument pas. Il y a plein de femmes fortes aujourd'hui, et même dans la relève francophone belge. Je prends Rive avec Juliette, qui est pour moi un personnage fort et qui va devenir un personnage fort de la scène francophone.
Ceci dit, tu as quand même une grande expérience derrière toi, Caroline, puisque tu as participé à plusieurs projets où tu étais sur le devant. Il y avait le projet Xavier qui s'appelait Playboy's Blend.
Playboy's Blend, ouais. Oui, ça a pas mal tourné, on s'est bien amusé. Maintenant, ce qui fonctionnait bien dans Playboy's Blend, c'était surtout mes... Enfin, par rapport à moi, j'ai pas, la musique était top, Xavier a fait un super boulot là-dessus. Maintenant, j'avais parfois plus l'impression que les gens étaient intéressés par ma tenue vestimentaire que par ce que je pouvais apporter sur scène, malheureusement. Mais
Oui, mais ça, c'est... Moi, je pense pas. Je crois que c'est... ça, c'est le côté pop aussi. De la musique, la pop... enfin, électropop, c'est-à-dire que t'as le concept aussi qui va avec. Merci. C'est-à-dire qu'il y a le look, la musique, les synthés, le son, la voix, enfin, c'est un ensemble artistique qui fait, donc...
Oui, ça, bien, comme je dis, je ne dénigre pas du tout le projet, ni rien, ou le travail que Xavier a fait au niveau musical, tout ça, mais il y a eu parfois des moments où j'étais assez jeune aussi quand j'ai fait ça, et parfois des situations qui m'ont mise assez mal à l'aise après concert ou quoi, où j'avais l'impression que c'était pas la musique que certaines personnes étaient venues regarder, parce qu'on parlait de la position de la femme. Maintenant, si on parle uniquement du projet, de l'expérience que ça a donné, c'était merveilleux, je me suis éclatée. Enfin voilà, ça me manque beaucoup de faire ce genre de projet. Maintenant, je dirais que je me suis mise à fond dans la vidéo et que la musique est plus ponctuelle, ou alors pour des côtés visuels comme avec Monster, où je fais uniquement la vidéo.
Avec Bandy, vous allez aller jouer dans les écoles ou...
Ouais, ouais. Jeff, tu veux venir avec nous?
Je passe mon tour.
Et toi, parlons un petit peu quand même de tes projets musicaux, quand même, hein. Parce que comment est-ce que tu as commencé ton projet La Cécité des Amoureux, même si pour le moment tu es dans une phase industrielle, on va dire, de réalisation d'albums, de plans de sortie, etc. Comment est-ce que tu en es arrivé à créer ce groupe?
Je ne sais pas, ça a toujours été en moi. J'ai toujours eu cette sensation que je ferais quelque chose dans la musique de très concret, en tout cas une création. La Cécité des Amoureux est née petit à petit, à force de rencontres avec certains musiciens. Et on est arrivé à cette chose qui est un peu baroque et fantasque et que j'aime particulièrement et qui permet d'exprimer une facette de ma personnalité qui est tantôt noire, tantôt lumineuse, mais comme chacun peut porter ça en soi. Et voilà, mais c'est un cheminement très naturel pour moi.
Et donc tu as passé des annonces au forum, tu vois, recherche guitariste et tout ça, ou tu as... Comment est-ce que c'est fait? Tu es venu avec tes textes et tu avais déjà tes mélodies, ou c'est vraiment une collaboration de groupe
À vrai dire, le forum est venu à moi pendant cette période-là régulièrement. Mais voilà, un petit clin d'œil. Et je pense pas qu'il...
Toi, tu as de l'humour quand même. Hein,
il est drôle, il est très drôle.
Ah bon. Et quelle était la question?
Bah, comment est-ce que c'est né, tu vois? Parce que bon, on sait qu'il y a une écriture, évidemment, dans ton projet. Vous mettez fort l'accent là-dessus, mais comment le groupe existe, hein, puisque tu n'es pas tout seul, je pense.
Non, du tout, j'ai rencontré Julien Ankers, guitariste, puis j'ai rencontré Noël, Elisabeth Swirkel au piano, Kevin, qui est dans le projet Rive, justement, à la batterie, Jean Debris à la contrebasse, et petit à petit, voilà, on est arrivé à une cohésion certaine, et on est arrivé à créer ce monde de la Cécité des Amoureux, parce que je pense que c'est vraiment un monde étudié sur scène, avec des costumes, avec justement ce côté art contemporain qui nous rejoint aussi sur scène. Et voilà, ainsi est née la Cécité des Amoureux.
C'est un projet quand même ambitieux, on va dire, et à une époque où tout va vite. Or, on a l'impression que vous prenez votre temps. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout dans ce rapport à la vitesse avec ce projet. Je ne sais pas expliquer, même par l'image, par la manière dont vous développez votre visuel, votre musique, etc. On a l'impression que ça suit une autre courbe du temps que celle de l'industrie de la musique en 2017. Est-ce que je me trompe ou c'est voulu sans doute?
Non, absolument pas, j'ai pas de courbe de temps et je n'ai pas envie de me laisser... dans la création, on ne peut pas être dans l'obligation. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette liberté-là. Et c'est vrai que le rapport au temps, je prends mon temps, je n'ai qu'une seule exigence, c'est la qualité. Le temps ne m'intéresse pas.
Et tu jauges comment cette qualité, toi Caroline, par exemple, quand tu fais une vidéo? C'est quand c'est flou, c'est pas bon, ou alors...
Ah, moi j'adore les flous, j'adore les plans ratés, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui est filmé, c'est pas ma technique. J'aime beaucoup filmer tout ce qui est en direct, vraiment tout ce qui est live. Et je préfère avoir un chouette regard avec un plan un peu foiré.
Donc tu pourrais être à l'RTB sans problème au niveau des plans foireux.
Oui voilà, mais eux il n'y a pas beaucoup d'émotions dans les interviews que je vois. Mais non, c'est vraiment, pour moi la qualité c'est l'émotion. Donc,
tu te fous des faux raccords et des fautes d'axe?
Non, les faux raccords, on passe nos, j'adore les petites vidéos faux raccords sur la chaîne Allociné de YouTube, d'ailleurs c'est très drôle. Mais c'est pas, parce que dans mon cas il n'y a pas vraiment de faux raccords possible, parce que voilà, je ne bosse pas pour une télé ou quoi, mais non, c'est, moi le principal c'est l'émotion, vraiment les regards, ce qui se passe. Et le rythme, beaucoup.
Je vous montrerai tout à l'heure, on a un Steadicam pour iPhone. Je sais pas si t'as déjà vu ça.
Non, jamais vu.
Tu peux Stanley Kubrifier ta vie avec un travelling.
Il faut beaucoup de talent pour ça. Le matériel ne suffit pas.
Tu peux faire un petit remake de Shining dans le couloir quand tu vas à l'hôtel au Formule 1.
Ah, au Formule 1, oui, c'est tellement angoissant. Zéro pour le Formule 1.
Alors, deuxième coup de cœur, Caroline, parce qu'on a parlé de ton premier coup de cœur, Rudy Trouvé, avec le Passenger. Non, je sais plus comment, enfin...
Passmans
and the Copenhagen. Et donc maintenant, ton deuxième coup de cœur, qu'est-ce que c'est? C'est de la musique, c'est du cinéma, c'est de la photo?
Alors, je pensais que c'était uniquement des coups de cœur musique, donc c'est un coup de cœur musique. Ça s'appelle, le groupe, c'est Sons of Time. C'est un groupe allemand que j'ai découvert par hasard au Kupper Café, qui est un chouette endroit de sortie à Liège. On est arrivé là par hasard et j'ai vu un mec assis par terre, pieds nus, qui buvait du thé. C'est en fait le chanteur du groupe qui attendait son tour. Et ce concert était merveilleux. J'avais jamais entendu parler de ce groupe. Je ne sais même pas si c'est vraiment hyper connu ici. La chanson s'appelle Soma. Les clips de ce groupe sont tous magnifiques, vraiment visuellement. Ça fait en même temps un coup de cœur visuel. Je vous invite vraiment à aller voir leurs clips. C'est complètement psyché. Sa voix, on dirait The Cure. Enfin, c'est magnifique.
On dirait The Cure par la...
La voix du chanteur.
L'image, je veux dire.
Non, pas du tout, non, pas du tout. C'est vraiment la voix du chanteur est très particulière.
L'image ressemble à quoi? C'est The Cure meet quoi?
The Cure meet Sofia Coppola.
Ah oui. Ça, c'est total hipster. C'est The Cure meet Sofia Coppola. Voilà. Là. Allez, on écoute ça.
Down.
C'était ce groupe allemand méconnu que nous sommes enfin en train de découvrir ici, trouvé aux abords d'un café de Liège et directement dans votre podcast. Toi, tu es un défenseur de la libre parole.
De la libre parole, de la libre pensée, de la liberté, oui. Je pense qu'on doit tous l'être, surtout en ces temps troublés.
Ce qui nous amène au débat du jour, parce que dans Saint-Opuron, il y a le débat du jour. Pour ou contre le rap?
Mais pour. Point.
Oui, prenons un rappeur, par exemple, qui traite les femmes de putes, comme le font beaucoup de rappeurs. Est-ce que c'est bien?
Je pense que c'est un peu cliché de dire ça. J'ai un peu de mal, notamment avec... c'est un débat qui m'a fait un peu de mal, notamment avec Section d'Assaut, qui est déjà un groupe qui me terrorise énormément. Mais...
Plus que Ken le Survivant.
Bien entendu. Mais voilà, il y a des discours qui incitent clairement à la haine et qui passent pourtant globalement. Donc on arrive quand même à promouvoir des groupes comme ceux-là, ça me gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, ce n'est pas lié à un style, absolument pas. Ils le font à travers ce biais-là, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse.
Oui, mais il y a plein de rappeurs, hein, prenons Hamza par exemple, qui est un petit gars qui n'est pas, enfin qui tient quand même souvent des propos dans les rappeurs. Et toujours à un moment, ça dérape, quoi.
Des flashs, à quatre dans le lit, je mets des doigts dans la chatte de mes trois pétasses. Je fais du Gucci pour mon chien, les anciens me disent c'est bien, c'est bien. Je mets ces petites putes au travail, cuisine la cambella. Cuisine la sauce, je traite ces petites putes et elles aiment ça. Elles aiment ça, oui, parce qu'elles sont comme ça. Elles travaillent à poil, mon frère. Satisfaction, elles sont fortes dans l'action. Donc elles coupent, puis elles remplissent les passions. Je mets ces petites putes au travail. La Campbella, elle veut un peu de doucher, donc elle me fait un peu Dieu doux. C'est sur vrai terrain que je joue. Boy, regarde, traite nous supplier à genoux. Elle travaille à mort, c'est vrai. Elle a quitté sa mère, ses frères. Elle aime les jeunes entrepreneurs qui vivent dans les coins sévères. Cuisine la sauce, elle mélange la sauce. Cuisine la sauce, mélange la sauce. Cuisine la sauce. Elle mélange la sauce, elle cuisine la sauce, elle mélange la sauce, cuisine la sauce, elle mélange la sauce, elle cuisine la sauce, elle mélange la sauce, cuisine la sauce, elle mélange la sauce, cuisine la sauce, elle mélange la sauce, remix et remix la merde comme El Chapo. J'suis autant illuminati qu'un nacho. Tout feu là, cela s'appellera El Diablo. J'redonne mon quartier assis sur le capot. Le H en grand sur le T sur le drapeau. J'sais qu'il y a un tas de fils de pute qui veulent ma peau. M'ouvre la cuillère pour moi, tu te prends des râteaux. Elle coupe cette muga comme si c'était du gâteau. Mélange la sauce. Tiens une clope, elle va prendre ta pose. Viens emballer la chose Rendez-vous sur la côte Satisfaction, elles sont fortes dans l'action. Donc elle coupe puis elle remplit les paxons. Je mets ces petites putes au travail. Cuisine la cambella. Par Dieu, rien ne nous fait peur. Y'a les anges qui comptent mes heures. J'essaye de vivre dans mon secteur. J'évite les keufs et l'inspecteur. Elle travaille à mort, c'est vrai. Elle a quitté sa mère, ses frères. Elle aime les jeunes entrepreneurs qui vivent dans les coins sévères. Cuisine la sauce, elle mélange la sauce, cuisine la sauce, mélange la sauce, cuisine la sauce, elle 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 mélange la sauce.
Enfin, je sais pas, je serais une fille, j'aurais pas envie d'écouter ça, moi. Toi, tu t'en penses?
Non, je suis d'accord avec Jeff. Maintenant, je pense, comme il dit que ce n'est pas lié à un genre musical, je m'y connais vraiment pas en rap, mais tout ce que j'ai pu écouter, entendre, notamment quand je bossais aux Ardentes, c'est pas trop ma came, quoi. C'est vrai qu'au niveau des paroles, c'est assez dégradant. Il y a des choses, quand on voit le dernier truc, on pensait que c'était une blague. Quand on a vu ça, on pensait que c'était un personnage justement d'art contemporain. C'est pas vraiment du rap. Jules, un truc
Jules, oui.
Je sais pas, je sais même pas comment on prononce ce nom.
Je veux un bisou.
Oui, ça. Mais à un moment donné, il compare quand même une femme à une femme noire et une banane. C'est difficile. Quand même. C'est hallucinant. Donc, pourtant, c'est pas vraiment. On va pas dire que c'est du rap. Je ne sais
si
pas.
C'est du rap. Hein.
C'est du rap, ça. Ouais. Ouais. Ouais, je... Enfin voilà, c'est... maintenant je pense pas que c'est uniquement dans le rap. C'est...
Bah, Julien Clerc ne tient pas des propos comme ça, par exemple.
Moi, j'ai... Non, mais
il a une certaine, peut-être en privé, mais il a une certaine retenue.
Michel Sardou en tient, hein. Pourtant c'est pas un rappeur, donc.
Moi, Michel Sardou, c'est moins quand même. Hein. Il...
Alors, moi, j'ai envie de dire, prenons Léo Ferré, c'est un très bon cas, qui est totalement misogyne dans ce qu'il a pu dire. Il a un rapport avec la femme qui est également dégoûtant. Ça n'empêche pas d'être un artiste immense, donc je pense à nouveau que le style n'est pas lié à la pensée, en tout cas pas tout le temps.
Et oui, mais quand même, je voudrais savoir par rapport au rap. Est-ce que Léo Ferré, s'il avait été vivant, aurait fait du rap?
Mais Léo Ferré, c'est les prémices du rap. Il a, pour moi, c'est
un... Sans la casquette, alors.
Mais avec le singe.
Comme Joe Star, tu veux dire, qui a frappé sur son singe, c'est ça?
Non, mais non. Mais non, pour moi, vraiment, très sérieusement, je pense que Léo Ferré était un initiateur de ce genre de texte et de musique, oui, il avait ça en lui.
Donc si Stromae est un peu le Jacques Brel moderne, Booba est un peu notre Léo Ferré.
J'ai toujours l'image de Léo Ferré avec une casquette, donc... Ouais,
Voilà une bonne image bien forte pour promotionner ce podcast. Tu nous ferais ça, un petit montage, tu vois, avec Léo Ferré avec une casquette.
C'est une bonne idée, il faut qu'on trouve ça.
Est-ce que, alors, pour continuer notre débat, Léo Ferré aurait dû faire de la musculation pour pouvoir tenir ce propos-là et avoir des biceps comme ceux de Booba, par exemple?
Non, tu vois, Big Flo et Oli, ils sont pas vraiment super basés, quoi.
Mais c'est rare, enfin, c'est des rappeurs gentils, des rappeurs de primaire, ça. Bon,
oui, mais j'ai l'impression que ce côté physique dans les rappeurs français, on n'a pas beaucoup. Nekfeu, c'est un trognon, quoi. Il est plus petit que moi, c'est pas... Non, ce côté muscle, pour moi, le rap, je ne pense pas à mec musclé.
Donc rap n'égale pas muscle.
Non.
D'office, enfin, d'office n'égale pas muscle.
Non. Moi, le rapport au corps est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est vrai que l'image qu'on se fait de l'homme, d'une manière générale, à travers la publicité, très musclé, etc., est aussi dérangeante que l'image qu'on a pu avoir de la femme. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on commence à taper vraiment sur l'homme et sur un modèle à avoir. Instagram aide à ça aussi. Je vois sur mon fil d'actualité, effectivement, des corps sans cesse. Je trouve ça assez dérangeant et je pense que c'est quand même le syndrome d'une bêtise qui s'installe petit à petit. J'ai même pas vraiment d'image du rap hyper musclé, ce genre de choses-là.
Kalash, par exemple.
Mais je ne connais même pas. Mon truc, c'est Barbara, donc forcément, on n'est pas du tout dans le même propos. Non, je connais pas. Je connais pas du tout Kalash.
Alors, est-ce que Barbara aurait fait un featuring avec Kalash ou avec Booba, par exemple, si elle avait été de notre époque?
Avec ces deux...
Comme Christine and the Queen a fait un featuring avec Booba.
Mais oui, j'ai vu cette chose. Cet objet assez étrange. Mais ce clip était un ennui mortel, et comme dirait Fishback justement. Mais la chanson était très belle par contre. Malgré le contenu texte de Booba, c'était Booba, hein,
oui.
Qui n'était pas très très beau, je trouve.
Et donc Booba, qu'on pourra applaudir, et j'imagine que tu seras là cet été aux Ardentes d'ailleurs, qui est un peu la tête d'affiche.
Non, je ne pense pas que je serai là.
Coup de cœur, peut-être autre chose que musique, cinéma, je sais pas, théâtre, quelque chose que vous avez envie de parler, expo.
J'ai trouvé, c'est un... j'en ai deux, à vrai dire.
Deux nouveaux coups de cœur, ouais. Les coups de cœur de Jeff, qu'on retrouve sur Radio Rectangle avec ta rubrique.
N'écoute pas les idoles.
Ouais. Formidable rubrique, axée chanson.
Axée chanson, toujours. Donc mes deux coups de cœur, le premier commence à être un peu répandu, c'est Juliette Armanet. C'est une chanteuse qui a sorti un CD, un album, son premier album qui s'appelle Petite Amie. Et c'est vraiment pour moi une pure merveille. Il est passé à Ruquier la semaine dernière, je pense.
On voit que tu es toujours un peu vintage, hein, parce qu'il est toujours CD.
Bah en tout cas, elle a sorti un CD, un vinyle, et téléchargeable et écoutable sur toutes les plateformes, effectivement. Mais oui, moi je suis un adepte de l'objet. Oui, et l'autre coup de cœur, c'est lié au réalisateur Denis Villeneuve, qui est un très très grand réalisateur québécois, qui avait sorti notamment Incendie, qui est un film totalement splendide, qui était tiré d'un bouquin, et justement l'auteur qui avait écrit Incendie vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Anima, qui est également québécois, je ne connais plus son nom parce qu'il est assez complexe, et c'est une pure merveille. C'est... un mari retrouve sa femme baignant dans le sang chez lui et il se lance à la recherche du tueur, mais tout se fait à travers les yeux des animaux qui le côtoient. Donc les corbeaux au cimetière, la fourmi qui va lui monter sur la jambe pendant qu'il est en chemin, et c'est vraiment très intéressant. Très
une sorte d'anthropomorphisme.
Si on veut, oui, tout à fait. Je le conseille vraiment, c'est un livre très poétique, une très grande écriture.
Et donc tu lis le livre en écoutant le disque de Juliette Armanet, tu sais faire ça, lire en écoutant?
Il me faut le silence le plus absolu pour lire.
Donc tu oscilles entre le disque de Juliette Armanet, qui ressemble un petit peu quand même à ce que faisait, tout proportion gardée, comment s'appelle-t-elle encore? Véronique Sanson du début, je trouve. Il y a ce petit côté un peu de production comme ça, américain, californien.
Oui, tout à fait. Voilà. Elle en parle d'ailleurs dans ses textes de la Californie.
Ça ne m'étonne pas.
Seul dans ma peau, sur la plage. Je me la joue mélo, je drague les nuages, solo dans ma fête. C'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots,
Et je voulais vous demander un truc avant de clôturer. Pourquoi est-ce que beaucoup d'artistes restent sur Liège, par exemple? C'est un truc qui m'a toujours cité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui produisent, qui font des choses, mais ça reste quand même très, très localisé sur Liège. Il y a peu de sorties. Qu'est-ce qui se passe? C'est un microclimat? C'est une difficulté de sortir d'une sphère, d'une communauté?
Je veux dire, c'est délicat, mais il y a une raison positive et une raison négative. La raison positive, je pense que Liège est confortable, agréable, c'est comme une ville agréable à vivre, on y est bien. Je suis partie parce que j'aimais pas ce côté village, je suis contente d'y être revenue parce que je trouve ça, oui, confortable, chouette ville. Maintenant, le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup de... comment dire ça poliment, d'automasturbation et de... C'est un genre de petite secte, Liège. Hein. On s'encense beaucoup les uns les autres, ce qui est chouette, mais ça devient vite, oui, un microclimat où tout le monde a l'impression d'être une star parce qu'on le reconnaît à la Casa Ponton. Enfin, c'est facile d'être artiste à Liège parce que vu que c'est petit, on est vite connu. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peut-être qui ne vont pas aller vers Bruxelles ou quoi, parce qu'à Bruxelles, on n'est personne, c'est normal. Donc,
Question de reconnaissance. Tu as une reconnaissance directe et ça, tu es content de l'avoir. Quoi. Ce qui est bien, ceci dit, de reconnu. Hein.
Oui, bien sûr, je crache pas dans la soupe, hein, c'est assez facile. Quand on est à Liège, c'est facile parce qu'on se connaît vite tous, on croise toujours quelqu'un qu'on connaît qui fait quelque chose, qui a un projet ou quoi, donc c'est facile. Mais c'est aussi le côté confortable parce qu'on sait que ça va marcher parce qu'on est tous là.
Liège est dans la place. Tu as un petit mot à rajouter par rapport à ça, toi, toi qui es un liégeois quand même de cœur?
Moi, je suis un liégeois de cœur, mais j'ai l'impression de bouger beaucoup. Donc, je parlais de la francophonie. Moi, ma maison, c'est ça. Donc, il y a une partie d'un côté de l'océan et l'autre de l'autre. Donc, je n'ai pas l'impression d'être vraiment coincé à Liège. Je reste à Liège pour deux raisons pratiques. C'est mon appartement que j'adore et mes amis que j'adore tout autant, je pense. Mais mon appartement, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai envie, voilà, je reste là.
Matérialiste, va.
Pour des raisons très matérialistes.
Eh bien, merci à vous deux. On retrouvera toute une série de liens en dessous du podcast et sur le site de radiorectangle.be. Merci beaucoup.
et à tout bientôt pour un prochain numéro de Ça ne tourne plus rond. Bye.
Rectangle, le podcast.